tout d'abord, une question. Qu'est-ce que l'Évangile pour vous? Quelle est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour vous? Si quelqu'un vous demandait, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Quelle serait votre réponse? Personnellement, je pense que ce qui me viendrait à l'esprit instinctivement, ce serait quelque chose comme ceci. Jésus-Christ est mort pour moi. Ou Dieu a pardonné mes péchés. Ou bien Dieu m'a offert la vie éternelle. Et peut-être que pour vous, c'était le même genre de réponse qui vous est venu à l'esprit. Et si c'est ce genre de réponse, ce sont de très bonnes réponses. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces réponses que j'ai données étaient centrées sur moi. Dieu pardonne mes péchés. Dieu m'offre à moi la vie éternelle. Ce sont des affirmations qui sont vraies, mais elles restent centrées sur moi. Et le risque est que je me retrouve avec une vision de l'Évangile qui est trop petite. Ce soir, on va découvrir une vision beaucoup plus grande de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la montagne et vous avez eu l'occasion de profiter d'une vue panoramique sur un paysage montagnard. Voilà une photo que mon frère a prise dans les Alpes. C'est une expérience incroyable. L'immensité de tout ce qu'on voit, c'est à couper le souffle. Et dans le passage de ce soir, on découvre quelque chose de similaire, mais à une échelle infiniment plus grande. Le plan large, si vous voulez, sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fera encore à l'échelle de l'univers entier et de toute l'histoire du monde. Je vous propose de procéder en deux temps. D'abord, Dieu a un plan, et ensuite, l'Église a une place privilégiée dans ce plan. Alors je me demande si vous êtes déjà posé cette question. Où va notre monde? Comment sera le monde dans 10 ans, ou dans 50 ans, ou dans un siècle? Dans le passage de ce soir, Paul aussi se pose cette question. Mais ce n'est pas comment sera le monde dans 10 ans ou dans 50 ans, c'est où va notre monde de manière ultime. Le texte, vous l'aurez remarqué, est extrêmement riche. Mais heureusement, Paul précise quelle est l'idée clé. Au verset 9 et 10, Paul écrit ceci. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui. Merci. Le projet bienveillant qui s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Ici, Paul dit que Dieu nous a donné un scoop. Il nous a révélé des informations en exclusivité. Il nous a révélé le mystère de sa volonté, son projet pour l'univers. C'est un peu comme si vous travaillez pour une entreprise et un jour votre patron vous invite dans son bureau et là il vous explique en exclusivité quelle est sa grande vision pour son entreprise, quel est l'objectif final. C'est ce que Dieu a fait si on suit Jésus-Christ. Il nous a révélé son projet, l'objectif final. Alors, quel est ce projet? La réponse est au verset 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Autre traduction possible, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un pays dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'Allemagne, c'est un des seuls pays dont l'économie se porte à peu près bien en Europe en ce moment, donc je vous propose de prendre un exemple tiré de l'histoire de nos voisins allemands. Il y a à peu près 150 ans, l'Allemagne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, ressemblait à ça. C'était des dizaines de petites principautés, chacun gouverné par son propre chef. Il n'avait pas de chef commun vraiment établi. Parfois, il passait des alliances pour faire la guerre, par exemple, mais il n'était pas uni sous un seul chef. Mais puis, en 1871, pas très loin d'ici, à Versailles, dans la célèbre Galerie des Glaces que vous avez peut-être visitée, moi, j'ai visité, j'étais un peu déçu, il n'y avait pas de menthe chocolat, il n'y avait que des miroirs. Dans la Galerie des Glaces, a été annoncée l'unification de ces États allemands sous un seul chef suprême, le Kaiser Wilhelm Ier, qui a une barbe fort sympathique. Voilà. Et à ce moment-là, l'Allemagne unie a vu le jour. On peut comparer avec ce que Paul dit ici dans Éphésiens, sauf que dans Éphésiens, c'est à l'échelle de l'univers entier. Le but ultime visé par Dieu, c'est de tout réunir sous un seul chef, pas le Kaiser Wilhelm, mais Jésus-Christ. Et quand il dit tout, il entend vraiment, vraiment tout. Rien n'y échappera. Personne n'y échappera. Toutes choses et toutes personnes seront ramenées sous l'autorité ultime et éternelle de Jésus-Christ. Où va notre monde alors ? Eh bien, vers cette unité qui a à sa tête Jésus-Christ. C'est là l'objectif ultime visé par Dieu. Alors, pourquoi ce projet ? Eh bien, le contraire de l'unité, c'est le conflit. Et regardez autour de vous. Le conflit, c'est partout. Vous pouvez aller sur le site des Nations Unies et vous trouverez une liste de tous les conflits armés dans le monde. Et la liste est très longue. Et puis chez nous, criminalité, insécurité, des familles brisées. Et à une plus petite échelle, rivalité, jalousie, hostilité dans nos relations. Partout le conflit entre les gens. Mais plus fondamental encore, il y a un conflit entre les êtres humains et leur créateur. Et en fait, c'est la cause de tous les autres conflits. La Bible dit que chacun a rejeté l'autorité bonne et bienveillante de Dieu pour entrer en conflit avec son propre créateur. Chacun, d'une manière ou d'une autre, dit à Dieu, « Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton règne, et je ne veux pas de tes règles. » Mais qu'est-ce que nous dit Paul ici ? Dieu a un plan. Un jour, il va tout réunir, une bonne fois pour toutes, tout rassembler sous un seul chef. Aujourd'hui, on voit des conflits de tout genre partout, mais un jour, Dieu y mettra fin et il ramènera toutes choses sous l'autorité bonne et bienveillante de Jésus-Christ. Au cours des prochaines semaines, on va voir comment ce plan va se réaliser. Comment, en fait, Dieu est déjà en train d'accomplir ce projet de tout réunir en Jésus-Christ. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez remarqué qu'on a là une vision de l'Évangile beaucoup plus grande que celle qu'on a peut-être l'habitude d'avoir? Ce n'est pas un petit Évangile centré sur petit moi. C'est Christ chef de tout et Dieu qui dirige tout selon son plan. Mon premier point alors, Dieu a un plan, tout réunir en Christ. Second point, Dieu a un plan et l'Église a une place privilégiée dans ce plan. J'ai dit tout à l'heure que c'est comme si notre patron nous invitait dans son bureau pour nous révéler en exclusivité sa vision pour son entreprise, mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Dieu ne fait pas que nous présenter son projet, il nous y accorde une place centrale. Je ne sais pas si vous avez remarqué une petite expression qu'on trouve partout dans ce passage, l'expression « en Christ ». On la retrouve dans presque chaque verset. Verset 3, « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ ». Verset 4, « en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde ». Verset 6, « en lui, nous avons la rédemption par son sang ». Verset 11, « en lui, nous avons reçu notre part d'héritage ». En fait, ça revient plus d'une dizaine de fois. Paul veut nous montrer que tout comme Jésus-Christ est au centre du plan de Dieu, ceux qui sont en Christ, vous et moi, si on a mis notre foi en lui, on a nous aussi une place privilégiée dans le plan de Dieu. Et je vous propose de voir trois aspects de cela maintenant. Dieu nous a choisis, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a mis à part. D'abord, Dieu nous a choisis. Alors, on a vu quel est l'objectif final de Dieu, tout réunir en Christ quand les temps seront accomplis, pour emprunter l'expression de Paul. Mais ce passage nous parle aussi du début de ce plan, avant la fondation du monde. Voilà les deux horizons de ce plan. Au verset 4, Paul écrit « En Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. » Ce que Paul veut dire, c'est que si vous avez choisi de suivre Jésus-Christ, c'est que Dieu vous avait d'abord choisi. Et cela avant même que vous n'existiez. Si on suit Jésus-Christ, c'est que avant même la création du monde, Dieu nous avait choisi pour qu'on lui appartienne. Son choix a précédé le nôtre, et il en est la cause. Alors, je reconnais que ces idées, Dieu qui choisit et qui prédestine, ce sont des idées qui ont fait couler beaucoup d'encre au cours des siècles. Mais Paul n'a pas écrit ces mots pour susciter des débats philosophiques interminables. Il les a écrits parce qu'il y a là une bonne nouvelle qu'on a besoin d'entendre. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Au cours de l'histoire, on a pu se demander pourquoi Dieu choisit certains et pas d'autres. Mais en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est que Dieu choisisse qui que ce soit. Selon la Bible, on est dans notre état naturel des rebelles contre Dieu. Et ce qu'on mérite de sa part, c'est sa condamnation. C'est dur à entendre, mais la Bible l'affirme. En fait, dans notre état naturel, on n'est même pas capable de nous tourner vers Dieu pour recevoir son aide. On est comme un homme ivre en train de se noyer dans la mer. Il n'est même pas conscient du danger dans lequel il se trouve. Tout seul, il va se noyer, et il ne le sait même pas. Il a besoin d'un sauveteur qui lui prenne par le col et qui l'éloigne du danger. Et c'est ce que Dieu a fait en choisissant de faire de nous ses enfants. Il a choisi de faire de gens comme vous et moi, des membres de sa famille, malgré nous, quelque part, malgré tout ce qui devrait nous disqualifier. Et on devrait, je pense, ressentir une grande humilité en pensant à ces choses. Dieu nous a choisis, pas en raison de nos propres mérites, mais dans sa pure bonté imméritée. Et ça veut dire qu'avant même de dire que la lumière soit, Dieu avait déjà dit, vous serez à moi, quoi qu'il arrive. Et c'est une très bonne nouvelle. Dieu nous a choisis. Ensuite, plus rapidement, Dieu nous a rachetés. Alors, on a parlé du choix de Dieu avant la fondation du monde. Et maintenant, Paul nous parle de ce que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Verset 7. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Aujourd'hui, le mot rédemption fait partie du jargon religieux, si vous voulez. Mais à l'époque de Paul, ça faisait partie du langage de tous les jours. Si quelqu'un, à cette époque-là, n'arrivait plus à payer ses dettes, par exemple, il pouvait se voir contraint à se faire l'esclave des personnes à qui il devait de l'argent. Il y a une photo, peut-être. Voilà, merci. Et c'est une pratique très courante. Mais si, par exemple, cette personne avait un riche cousin, eh bien ce cousin pouvait venir verser une certaine somme d'argent pour racheter sa liberté et l'affranchir. Et c'est là le sens premier du mot « rédemption », cette idée de rachat. Et d'après la Bible, dans notre état naturel, on est tous des esclaves, non pas à un maître humain, mais au péché et à sa conséquence, la condamnation de Dieu. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a payé le prix de notre libération. Il a versé, non pas une somme d'argent, mais son propre sang. On a symbolisé tout à l'heure, au moment de la scène, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a pris sur lui la condamnation qui devait être la nôtre. Et donc, si on a mis notre foi en Jésus-Christ, on est des gens libres et affranchis, libérés du pouvoir du péché et de la peur de la condamnation. Le péché de notre passé, qu'on n'arrive pas à oublier, aux yeux de Dieu, s'est effacé. On est libre, pardonné, racheté par Dieu. Enfin, Dieu nous a mis à part. Je crois que c'est la diapo suivante. Ah. Je ne sais pas si vous possédez quelque chose dont vous êtes vraiment fier. Quelque chose que vous montrez aux gens quand vous avez vraiment envie d'épater la galerie. C'est peut-être votre téléphone, iPhone 5S. C'est peut-être un habit, c'est pas mon cas, mais c'est peut-être le cas de Wissam. Non mais comme il est beau. Ou mesdames, vous avez peut-être une robe particulièrement belle ou un collier très cher. Qu'est-ce que vous montrez aux gens quand vous avez vraiment envie d'en mettre plein les yeux? Eh bien, Dieu choisirait l'Église. C'est l'Église, la grande fierté de Dieu sur la terre. Pas parce qu'en nous-mêmes, on est meilleur que les autres, mais parce qu'indépendamment de nos mérites ou manque de mérites, Dieu nous a choisis, rachetés et mis à part. Alors, dans la version de la Bible que nous utilisons, la Nouvelle Bible Second, au verset 11, nous lisons « En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage. » Mais une autre traduction est possible. C'est celle qu'on trouve par exemple dans la Bible de la Colombe. Et là, on lit plutôt « En lui, nous avons aussi été mis à part. » Et si on retient cette traduction, et je pense qu'il y a de bonnes raisons de le faire, Paul parle non pas d'un héritage que nous devons recevoir, mais il veut plutôt dire que nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes sa propriété. Nous sommes à lui. Il nous a mis à part. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël qui est ce peuple qui est mis à part par Dieu. Et l'objectif était quand les autres nations regardaient le peuple d'Israël, ils se disent « Quel Dieu merveilleux ! Regardez tout ce qu'il a fait pour eux. Ils vivent vraiment parmi eux. » Mais maintenant, Paul est en train de dire que Dieu a constitué un nouveau peuple composé de gens de toute origine, toutes les nations, tous les arrière-plans, qui sera mis à part pour lui. Et l'objectif est que quand le monde voit ce peuple, ils disent « Quel Dieu merveilleux ! Il vit vraiment parmi eux. » Et ce peuple, vous l'aurez compris, c'est l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes le moyen que Dieu a choisi pour démontrer sa gloire au monde? Vous êtes avec le reste de l'Église, avec un grand E, donc tous les chrétiens partout dans le monde et à travers l'histoire. Vous êtes la vitrine par laquelle le monde voit ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Je ne sais pas combien on est dans cette salle, peut-être 70, 80. Comparé à la taille de Paris, il faut reconnaître que ce n'est pas énorme. Et même si on comptait toutes les autres églises, les chrétiens ne représenteraient toujours qu'une petite partie de la population. Ce serait facile de se sentir pas très important et pas très impressionnant. Mais Dieu voit les choses autrement. Pour Dieu, l'Église, c'est le peuple qu'il a mis à part pour célébrer sa gloire, c'est-à-dire de se réjouir de qui il est, ce qu'il a fait, et l'annoncer au monde. C'est une grande vocation. Et tout ça veut dire que malgré nos origines diverses, nos arrière-plans différents, peut-être le fait qu'on vienne de cultures qui n'ont rien à voir ou qu'on a eu des parcours complètement contrastés, malgré tout ça, on est unis dans quelque chose de glorieux. Ensemble, on fait partie de ce peuple que Dieu a appelé et mis à part. Dieu a fait de nous une nouvelle communauté, une nouvelle famille et un nouveau peuple. En Christ, on est unis et mis à part pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile alors? Alors selon ce qu'on a vu, je pense qu'on pourrait dire quelque chose comme ceci. Le plan de Dieu pour réunir toutes choses en Jésus-Christ, en donnant à l'Église une place privilégiée dans ce plan. Et voilà la vue panoramique sur l'Évangile que ce passage nous donne. Et je vous suggère que ça implique au moins trois choses. Première chose, choisissez votre camp. Quoi qu'il arrive, Dieu va tout réunir sous le règne de Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas rester neutre par rapport à Jésus. Et donc, la question la plus importante qu'on doit se poser dans la vie, c'est est-ce que Jésus règne dans ma vie ? Celui qui est chef de tout et à qui toutes choses seront soumises, eh bien, est-ce qu'il est mon chef ? Est-ce qu'il est mon Seigneur ? Quand Dieu accomplit son projet ultime, est-ce que je serai du bon côté ? Et Dieu offre à toute personne qui reconnaît en Jésus son Seigneur et Sauveur toutes les bénédictions qu'on a vues ce soir, le pardon, la liberté, l'accueil dans sa famille. Alors, est-ce que le Seigneur de l'univers est mon Seigneur aujourd'hui ? Et vous avez peut-être encore beaucoup de questions à ce sujet. Pourquoi pas prendre le temps d'en discuter avec quelqu'un après la rencontre ? Je suis sûr que Matthieu ou Paul seraient, ou Anne-Sophie seraient ravis de le faire. Deuxième chose, comptez vos bienfaits. Si on suit Jésus-Christ, on est béni au-delà de nos rêves les plus fous. Le problème, c'est qu'on a tendance à l'oublier. Et le plus souvent, ce sont nos sentiments et nos circonstances qui déterminent comment on se voit. Le stress, les soucis de la vie, la maladie, ou tout simplement le fait d'être sur le quai du RER lundi matin à 7h dans le froid avant une semaine de travail. Ce sont des choses qui font que, le plus souvent, on ne se voit pas comme étant très béni. Et c'est pour ça qu'on doit constamment lutter pour ne pas perdre de vue tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Je ne connais pas toutes vos circonstances, mais je sais que si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes un vénard, spirituellement parlant. Dieu a déversé sa bonté sur vous. Pourquoi prendre le temps cette semaine pour relire le passage de ce soir, Éphésiens 1, et se poser la question, voilà tout ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que ça change au niveau de comment je me sens et au niveau de comment je me vois, au niveau de comment je conçois mon identité. Enfin, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans ce passage d'Éphésiens, tous ensemble. Si vous êtes chrétien, vous faites partie de quelque chose de glorieux, plus important que n'importe quel parti politique, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle association, plus important encore que le Paris Saint-Germain, le Boulan Boys ou même l'Olympique Marseille. Et on y est tous impliqués ensemble. Il y a un danger, je pense, à mettre tellement l'accent sur la relation personnelle avec Dieu, chose qui est essentielle, c'est au cœur de la vie chrétienne, qu'on oublie que Dieu appelle à lui un peuple, une communauté, une famille. Mais on n'est pas appelé à vivre la vie chrétienne, chacun dans son coin. En fait, essayer de vivre sa foi tout seul, c'est passer complètement à côté du plan de Dieu pour le monde. Parce que Dieu a voulu qu'au cœur de son projet, il y ait non pas des individus sans lien entre eux, mais un peuple, une famille. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire pour vous de mettre cela en pratique. Peut-être le fait de prendre du temps après la rencontre pour faire la connaissance de nouvelles personnes, peut-être le fait d'inviter quelqu'un à manger chez vous, peut-être le fait de prendre un café avec quelqu'un cette semaine qui passe par un moment difficile, peut-être le fait de se réunir avec quelques personnes pour prier, lire la Bible ensemble. Quoi qu'il en soit, gardons bien en tête que c'est Dieu qui nous a rassemblés et donc on a besoin les uns des autres. Je vous invite à prier. Notre Père, notre bon Père céleste, nous te louons parce que en Christ, tu nous as tout donné. Tu nous as choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant toi. Tu nous as rachetés et pardonné grâce à la mort de Jésus-Christ. Tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté, ton plan pour tout réunir sous un seul chef, Jésus-Christ. Enfin, tu nous as mis à part pour célébrer ta gloire. Seigneur, tu connais chaque personne ici. Tu connais nos circonstances et nos soucis. Veuille graver ces vérités glorieuses sur nos cœurs pour qu'à tout moment, nous puissions nous réjouir de ce que tu as accompli en Jésus-Christ et te glorifier pour l'immensité de ta grâce envers nous. Amen.